Béni soit le Seigneur pour sa grâce, sa présence parmi nous ce soir, voulant ouvrir sa parole et être à l'écoute. Ouvrons la parole de Dieu ensemble dans l'évangile de Matthieu, chapitre 16, verset 6. Jésus leur dit, « Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. » Les disciples raisonnaient en eux-mêmes et disaient, « C'est parce que nous n'avons pas pris de pain. » Jésus l'ayant su dit, « Pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi, sur le fait que vous n'avez pas pris de pain? Êtes-vous encore sans intelligence et ne vous rappelez-vous plus les 5 pains des 5 000 hommes et combien de paniers vous avez emportés, ni les 7 pains des 4 000 hommes et combien de corbeilles vous avez emportées? Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet de pain que je vous ai parlé ?» Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Alors, ils comprirent que ce n'était pas du levain du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Amen. Voilà, je le dis dès le début, le parallèle de ce passage se trouve dans Marc chapitre 8, et c'est avec ce parallèle que je vais vous donner davantage d'éléments qui sont dans le contexte de ce passage. On va pas lire le parallèle, mais c'est intéressant pour ceux qui prennent des notes, je vous encourage à voir aussi, à mettre ce parallèle à côté de ce que nous venons de lire, pour mieux saisir ce qu'il se passait à ce moment-là. Nous voyons, dès le début donc de ce passage, Jésus s'adressait à ses disciples. Et c'était juste après ce moment où il y a eu la seconde multiplication des pains pour les 4000 hommes. Vous savez, il y a eu 2 multiplications de pains, et Jésus le dit dans ce passage, une première pour 5000 hommes, une autre pour 4000. On ne parle que d'hommes masculins. C'est pour dire que il y avait une foule qui était largement plus grande. Et c'est ce qui nous donne encore davantage saisir la puissance de Dieu. Quand on regarde le passage parallèle, on voit que Jésus donc allait prendre une barque avec ses disciples pour passer, pour traverser, pour passer d'un autre bord. Et juste avant de monter dans cette barque, on le voit parler avec des hommes religieux de différents groupes, des pharisiens, des sadducéens. Et on comprend dans ce parallèle aussi dans Marc 8 qu'il y avait aussi des hérodiens. Et c'est le passage que nous avons au début de ce chapitre 16. Nous pouvons le voir, voyant cette discussion que Jésus a au début de ce chapitre 16 avec ces hommes qui sont venus pour mettre Jésus à l'épreuve en lui demandant de faire un miracle. Et à ce moment-là, bien malgré la mauvaise disposition de cœur de ces hommes religieux qui étaient là pour tester Jésus, pour le mettre à l'épreuve, Jésus va quand même leur donner une parole de grâce, une parole de bénédiction, une parole qui va les conduire là où Dieu voulait pour eux, une parole qui va les conduire à la croix. C'est ce que Jésus leur dit en leur disant, en leur rappelant l'expérience de Jonas. Il leur rappelle l'expérience de Jonas parce que ces hommes étaient venus pour lui demander un signe. Et Jésus va dire, une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Puis il les quitta et s'en alla. Et ce soir encore, j'aimerais nous rappeler qu'il y a à la base de ce message ce soir, mais à la base de nos vies, ce qu'il doit y avoir à la base de chaque vie d'enfant de Dieu, c'est la croix. Et que la croix doit demeurer. Et que c'est toujours à la croix que le Seigneur Jésus-Christ nous conduira. Et que c'est toujours à la croix qu'il voudra qu'on demeure, qu'on lui appartienne ou qu'on ne lui appartienne pas. Ces hommes n'appartenaient pas à Dieu, ils avaient l'apparence, mais ils étaient loin de Dieu, et ils avaient besoin de saisir l'œuvre de la croix, de saisir ce que voulait Jésus-Christ leur dire pour qu'ils puissent recevoir la grâce de Dieu. Et ce soir, de la même manière, j'aimerais te dire que si tu demandes à Dieu un miracle, si tu demandes à Dieu un signe, réalise que le signe, Dieu te l'a donné. Il y a plus de 2000 ans, il est descendu de son ciel de gloire, il s'est fait homme et il est venu sur cette terre pour nous. C'est là le plus grand des miracles, c'est là le plus grand des signes. Et il n'y a pas d'autre signe à demander à Dieu pour nous donner réaliser, de comprendre ce qu'il a fait. Simplement, tu peux demander à Dieu, ouvre mes yeux sur la croix, ouvre mes yeux sur ton amour à la croix pour moi, et donne-moi de réaliser davantage ton œuvre, parce que c'est ça qui nous amènera toujours plus loin, c'est ça qui nous donnera de vivre et de recevoir vraiment la grâce de Dieu, c'est ça qui transformera nos cœurs et qui nous donnera de recevoir, de faire l'expérience de ce miracle, le miracle de la vie, le miracle de la nouvelle naissance. Ce miracle que demandaient ces hommes. C'est donc ce que nous voyons avant ce passage, avant que Jésus revienne vers ses disciples et leur donne cette parole très importante que j'ai eue sur le cœur ce soir pour nous, que j'ai eu à cœur que l'on retienne. Gardez-vous avec soin. Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. À ce moment-là, les disciples, sur le coup, n'ont pas trop compris cette parole. On l'a vu, ils ont pensé, ils ont commencé à raisonner, ils ont réfléchi, ils se sont dit, mais c'est parce qu'on n'a pas pris de pain. Jésus venait de faire cette multiplication de pain et ils n'avaient pris qu'un pain, on le voit dans le parallèle dans Marc 8. Et ils étaient dans cette barque, ils n'avaient pris qu'un pain et ils pensent à ça, ils pensent qu'ils ont fait une erreur à ce niveau-là. J'ai eu cette pensée sur mon cœur, combien de fois n'avons-nous pas réagi de la même manière ? Devant une épreuve, devant une situation difficile, devant une position devant laquelle le Seigneur nous plaçait, où il nous parlait pour aller plus loin, mais devant laquelle on a réfléchi, devant laquelle on a raisonné. Hein ? C'est ce qu'ont fait ses disciples, ils ont commencé à raisonner en eux-mêmes et à se poser des questions. Et combien de fois on a pu de la même manière se poser des questions sur le plan matériel ? Parce que c'était ça, ils réfléchissaient là uniquement sur le matériel, le visible, le terrestre. Hein ? Et combien de fois nous avons pu passer par les mêmes raisonnements ? Comment Dieu va-t-il faire ? Dieu m'a parlé, Dieu me montre telle direction, telle chose dans ma vie. Et on se pose des questions. Comment Dieu va-t-il faire ? Comment va-t-il pourvoir ? Matériellement, là, on est trop juste. On n'a pris qu'un pain, là, on ne va pas pouvoir. C'est une erreur, c'est ça qui nous manque. On est limité. Mais il y a quelque chose pour Dieu qui est bien plus important que nos besoins matériels du moment. On a pu le voir, on a pu le chanter. Jésus-Christ, Dieu s'est engagé à pourvoir à tous nos besoins. Et ce soir, vraiment, j'aimerais t'encourager à ne pas douter de justement cette la grâce de Dieu, de cette réalité qu'il pourvoit quand on le cherche. Premièrement, c'était un verset que j'avais sur le cœur aussi, que j'ai noté, que j'avais mis dans mes notes. Matthieu 6, 33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Les disciples s'inquiétaient. Ils se posaient des questions par rapport à leur nourriture. Mais il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Seigneur est celui qui a promis. C'est une promesse, il s'est engagé. Et je disais que la croix doit être là à la base, doit être là à la base de nos vies, mais doit être là tous les jours, parce que quand on reste et quand on demeure à la croix, quand vraiment l'œuvre de la croix est là au centre, et quand c'est une chose vivante dans nos cœurs, on réalise que si Dieu n'a pas épargné son propre Fils pour nous, bien on saisit qu'il nous donnera tout ce dont on a besoin pour marcher, pour vivre ici-bas et pour accomplir sa volonté. Donc il y a une chose qui est bien plus importante que les choses matérielles, les besoins matériels du moment. Ce que Dieu veut que nous réalisions, c'est cette parole, de nous garder avec soin, avec attention. Gardez-vous, une autre version dit, attentivement, du levain. Mais qu'est-ce que le levain, dans la parole ? Qu'est-ce que ça signifie pour nous aujourd'hui, cette parole ? On a vu que les disciples, à la fin, ils ont pu saisir ce que ça signifiait. Et pour nous, ça nous parle encore, ça nous concerne. Cette parole nous concerne. Gardez-vous avec soin du levain. Le levain, dans la parole de Dieu, est considéré partout dans l'Écriture comme le symbole de la corruption ou du mal. Dans toute l'Écriture, on peut voir cela. Dans l'Ancien Testament, les ordonnances qui avaient été données à Moïse, au peuple hébreu, quand ils étaient en Égypte, quand ils allaient sortir, quand ils étaient encore sous l'esclavage des Égyptiens, ils ont pu recevoir ces ordres pour manger la Pâque de l'Éternel, pour se tourner vers le Seigneur de cette manière. Dieu leur avait parlé dans Exode chapitre 12, verset 15. « Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé, donc du pain avec du levain, du premier jour au 7e jour, sera retranché d'Israël. » Au même chapitre, Exode 12, verset 19, « Pendant 7 jours, il ne se trouvera point de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé sera retranchée de l'assemblée d'Israël, que ce soit un étranger ou un indigène. » Donc la parole de Dieu nous montre, par ces images dans l'Ancien Testament, cette réalité que le levain était considéré comme quelque chose de mal, de mauvais aux yeux de Dieu. C'est une image qu'il nous donne. Et c'était quelque chose qu'il avait demandé de concret à son peuple à ce moment-là. On voit aussi cette réalité dans le Lévitique chapitre 2, verset 11, où Dieu avait ordonné à son peuple qu'il n'y ait pas de levain dans les sacrifices qui lui étaient offerts en offrande. Il est écrit dans Lévitique 2:11, « Aucune des offrandes que vous présenterez à l'Éternel ne sera faite avec du levain, car vous ne brûlerez rien qui contienne du levain ou du miel parmi les offrandes consumées par le feu devant l'Éternel. » On voit encore là ce que Dieu demandait, qu'il n'y ait aucune offrande présentée à l'Éternel avec du levain. Et prenons garde, mes frères et sœurs, vous allez comprendre à la fin de ce message, plus précisément, cette exhortation, cet enseignement, mais il y a des conséquences à la désobéissance. Il y avait des conséquences à ne pas faire ce que le Seigneur demandait à ce moment-là. On voit que c'était sérieux. La conséquence était d'être retranché du peuple d'Israël, du peuple de Dieu. Toutefois, on voit quand même dans la parole certaines exceptions par rapport au levain, non pas dans ce que ça représente, parce que ça symbolise toujours, je vous l'ai dit, le mal, mais on trouve dans la parole des exceptions par rapport à l'utilisation du levain. On voit dans Lévitique chapitre 7, verset 13, « À ses gâteaux, il ajoutera du pain levé pour son offrande, avec son sacrifice de reconnaissance et d'action de grâce. » Alors c'est particulier, Dieu demandait à ce moment-là, à ceux qui voulaient, c'est dans l'Ancien Testament, sous l'Ancienne Alliance, à tous ceux qui voulaient offrir à l'Éternel un sacrifice d'action de grâce, d'offrir ce sacrifice, cette offrande, avec du pain levé, avec du pain, avec du levain. Donc là, il y avait une possibilité d'offrir du pain avec du levain. Et ça nous parle, ça encore. Ça nous parle pour nous aujourd'hui. Parce que cela signifie que cela est représenté que la personne qui, en fait, après avoir donné un sacrifice, ce qu'il fallait pour recevoir le pardon de ses péchés, offrait par la suite un sacrifice d'action de grâce. Avec du levain, c'était l'ordre. Vraiment, ceux qui s'approchaient de Dieu, cherchaient à recevoir le pardon de leurs péchés par un sacrifice, et c'est après qu'ils apportaient leurs actions de grâce. Et dans la vie chrétienne, c'est encore le cas. Nos actions de grâce ont du levain. Parce que Dieu nous donne de réaliser que oui, après avoir fait l'expérience d'avoir reçu son pardon, après d'avoir réalisé le sacrifice de Jésus-Christ à la croix, qui nous donne le pardon de nos péchés, après avoir fait cette expérience, le cœur de chaque chrétien véritable, c'est d'offrir à Dieu la reconnaissance. C'est d'offrir à Dieu vraiment une reconnaissance pleine et entière. C'est ce qu'il y a pleinement dans nos cœurs. Mais dans cette reconnaissance, il y a du levain. C'est ce qui nous donne de réaliser que, malgré le fait qu'on accepte que Jésus-Christ a tout accompli entièrement, pleinement, parfaitement, et que ce sacrifice nous purifie de tous nos péchés, on réalise qu'on n'est pas parfait. C'est ce que ça signifiait. Le levain représente le mal et signifiait que malgré cette personne apportait un sacrifice de reconnaissance, elle acceptait qu'il y avait toujours des imperfections. C'est ce que ça nous donne de comprendre encore pour nous aujourd'hui. Mais cela ne nous empêche pas, c'est pas ça le meilleur mot à choisir à ce moment-là, mais cela ne nous évite pas de rechercher à tendre à la perfection. Hein. Cela ne nous rend pas exempt de chercher à vraiment tendre à la perfection, à tendre à la sainteté, de chercher à marcher dans l'obéissance. Parce que ce n'est pas parce qu'on accepte qu'on n'est pas parfait qu'on peut faire tout ce que l'on veut comme on veut. Hein. Ce n'est pas parce qu'on se dit, mais tant qu'on est ici-bas, ben, personne n'est parfait, donc on peut faire ce qu'on veut, on compte sur la grâce de Dieu. Non. Le Seigneur nous appelle vraiment à être sérieux et il nous dit, il y a cette réalité qui résume bien ce sacrifice avec le levain dans 1 Jean chapitre 1 verset 8. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. C'est pour les chrétiens aussi. Hein, le Seigneur nous apprend que il y a des imperfections. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Et ça résume pleinement ce que je vous dis, cette réalité par rapport au levain dans les actions de grâce. Alors que nous puissions garder à cœur cette réalité et chercher à nous garder du levain maintenant. Hein? Parce qu'on voit cette image dans l'Ancien Testament. On la retrouve aussi dans le Nouveau, on l'a vu au travers des enseignements du Seigneur Jésus-Christ, mais on la voit aussi dans les Épîtres par la suite, dans la première Épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 6. « Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte ?» Un peu de levain fait lever toute la pâte. Faites, vous savez, vous connaissez le levain, hein, le principe du levain de faire lever, hein, et un peu de levain fait lever toute la pâte. La suite de ce passage, fait disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. C'est à cela que Dieu nous appelle, mes frères et sœurs. À enlever tout vieux levain, parce qu'il y avait aussi cette pratique, cette coutume à l'époque, au temps de Jésus, d'utiliser le vieux levain quand on faisait un gâteau, une vieille pâte avec une nouvelle pâte pour faire lever ce gâteau. C'était ce qui se pratiquait. C'est pour cela qu'il est dit dans ce verset, faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, qu'il n'y ait pas dans la pâte nouvelle quoi que ce soit de ce vieux levain, de cette ancienne vie, cette vie de péché. Un peu de levain fait lever toute la pâte, que nous puissions enlever tout levain de malice et de méchanceté et chercher à avoir cette vie et cette marche dans la pureté et la vérité. Alors, dans ce passage que nous avons lu, nous voyons donc que Jésus enseigne cette réalité à ses disciples. Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens. On comprend mieux ce que cela veut dire maintenant. Et dans ce passage, on voit donc ces trois groupes d'hommes religieux. Les pharisiens, les sadducéens et les hérodiens. Et on voit que ces trois groupes avaient un levain dont il faut se méfier, encore pour nous aujourd'hui. Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Dans Marc 8, on voit du levain des hérodiens. Et j'aimerais voir avec vous ces trois levains dont il nous faut nous méfier. Le levain des pharisiens représentait une religion formaliste. Jésus a pu dire par ailleurs aux pharisiens dans Matthieu chapitre 23 verset 14 « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves et que vous faites pour l'apparence de longues prières, à cause de cela vous serez jugés plus sévèrement. » C'était là l'attitude des pharisiens. cette religion d'apparence. Ils faisaient de longues prières en apparence pour être bien vus des hommes. Ils avaient cette religion d'apparence. Ils allaient au temple pour être vus. Ils lisaient la Bible pour par apparence. Tout était dans l'apparence. Il n'y avait rien de réel. Leur cœur était loin de Dieu. Il y avait ce levain, hein, ce mal qui était là dans leur cœur. Et toutes ces mauvaises choses, cette hypocrisie qui prenait toute la place et qui les empêchait vraiment bien de recevoir la grâce de Dieu qui les éloignait, qui amenait sur eux la malédiction. Et Dieu nous appelle ce soir à veiller, à nous préserver, à nous garder avec soin du levain des pharisiens, de cette attitude de religiosité, d'aller à l'église parce qu'il faut aller à l'église, de lire la Bible parce qu'il faut lire la Bible, de faire de longues prières parce que c'est beau et parce que ça fait bien pour être vu des hommes. Mais le Seigneur nous appelle à lutter vraiment, mes frères et sœurs, contre toute forme de religiosité, que ce soit au milieu de nous ou que ce soit chez nous. Hein, que nous puissions vraiment chercher, oui, comme nous le chantions, la présence de Dieu, de tout notre cœur, quand nous ouvrons la parole, quand nous nous tenons dans la prière, quand nous allons à l'église, que ce soit pour chercher Dieu, hein, véritablement, parce que c'est ça qui amène la grâce de Dieu, c'est ça qui amène la bénédiction. Gardons-nous, vraiment, gardons-nous avec soin, attentivement, de ces attitudes. Il y avait aussi le levain des Sadducéens. Le levain des Sadducéens représentait le scepticisme à l'égard du surnaturel, hein, comme à l'égard des Écritures. Jésus a pu leur dire, dans Matthieu 22, verset 23, « Le même jour, on voit ce passage, en fait je vais vous le résumer, où les Sadducéens sont venus vers Jésus. » Et où ils lui ont posé une question, vous savez, par rapport à... C'était une question particulière, c'était des hommes religieux, mais on voit que c'était très compliqué la religion pour eux. Parce que la religion, c'est très compliqué, ça amène des questions très compliquées. Dieu est simple. Et quand on a ce cœur de chercher Dieu, on comprend simplement ce qu'il nous demande, et il n'y a plus qu'à obéir. Mais ces hommes, tellement ils compliquaient les choses, ils vont venir voir Jésus pour lui demander, hein, par rapport à une situation que une femme avait eu pour épouse, voilà, un homme, et que cet homme était décédé, et puis par la suite tous ses frères étaient décédés, et puis ils vont demander à Jésus, mais lors de la résurrection, de quel mari sera-t-elle l'épouse? C'était là leur question compliquée. Vous l'avouerez, c'est compliqué. Si vous avez la réponse, vous me direz. Le Seigneur Jésus, en tout cas, leur a parlé clairement. Vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Ces hommes étaient dans l'erreur, oui, parce qu'ils ne croyaient pas vraiment à la résurrection. Hein, c'était leur position. Et donc, ils ne croyaient pas à ce que leur disait la parole de Dieu. Et Jésus nous parle encore ce soir au travers de ce levain des Sadducéens dont il faut nous méfier, de ne pas remettre en question la parole de Dieu, la véracité de la parole de Dieu. Tout est écrit et tout est réel, elle est la vérité. Et il est important de nous garder avec soin, de remettre en question quel que soit, quelques versets, quelques passages, de ne rien enlever, de ne rien retrancher, de ne rien rajouter, hein, et que nous puissions y croire, que nous puissions y croire, que nous puissions ne pas être comme ces Sadducéens, toujours dans ce scepticisme, de se poser des questions compliquées, et de ne pas saisir la volonté de Dieu avec foi. Vous savez ce que c'est le scepticisme? C'est le doute, c'est la remise en question sans cesse. Et j'ai été étonné, interpellé de regarder la définition du scepticisme. C'est même plus que donc le doute, en fait. Quand on regarde la définition, c'est une doctrine. C'est une doctrine philosophique qui repose sur le principe que l'homme ne peut connaître la vérité et qu'il est donc essentiel de systématiquement douter. C'est terrible. Par extension, ce terme qualifie la disposition d'esprit d'une personne qui doute des idées et valeurs auxquelles elle est confrontée. Et Dieu nous parle dans sa parole du doute. Et il nous montre que, eh bien, quand on est dans cette position de doute, qu'il ne sert à rien d'attendre quoi que ce soit de la part de l'Éternel. Parce que Dieu ne nous l'accordera pas. Parce que ce qu'il honore, c'est la foi. Qu'il te soit fait selon ta foi. Et Dieu nous appelle tous à marcher avec foi. Chaque jour, le juste vivra par la foi. Le juste aura une vie de foi. Il est vraiment important ce soir de garder ces choses à cœur. Hein, de ne pas limiter Dieu, de ne pas le rabaisser, de ne pas le limiter d'agir dans nos vies. De ne pas douter de ses promesses, de ce qu'il nous montre dans sa parole. Hein, il y a des versets, je pense, avec lesquels on peut avoir, et tous, je parle pour nous tous, et moi le premier, où on peut avoir parfois des difficultés dans la foi, mais il nous faut vraiment ne pas être dans quelques doutes que ce soit, mais et pleinement continuer de garder à cœur ce que le Seigneur nous dit. Je pense à ce verset dans Jean 14, verset 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en sera de plus grandes, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Est-ce que vous croyez à ce verset, mes frères et sœurs? Avec foi pour vos vies aujourd'hui, et ne tombons pas dans le scepticisme et dans le doute des Sadducéens. Gardons-nous avec soin, que ce soit là pour faire les œuvres du Seigneur Jésus-Christ dans notre temps, aujourd'hui, mais que ce soit pour tous les autres domaines, pour le baptême dans le Saint-Esprit, pour les dons spirituels, pour la confirmation de la parole de Dieu dans nos cultes, dans nos réunions, que nous puissions ne pas être dans un doute par rapport à toutes ces choses. Mais gardez foi que le Seigneur est toujours le même et qu'il n'a pas changé, que c'est ce qu'il veut faire. Hein, saisissons par la foi. La foi, c'est ça, c'est une attitude qui nous amène à saisir. Quand le Seigneur Jésus-Christ a dit « attendez ce que le Père a promis », quand on regarde ce mot grec en hébreu, ce mot grec « attendez », ça a cette signification de saisir. Et c'est ce que Dieu nous appelle à faire, à saisir ses promesses, à saisir ce qu'il met là pour nos vies, pour nos situations. Ta situation, je ne la connais pas ce soir. Ta vie, ton quotidien, tes besoins, mais ne limite pas Dieu dans ta vie. Gardons-nous avec soin du levain des Sadducéens. Et pour terminer, il y avait le levain des Hérodiens. Et donc, qu'est-ce que était le levain des Hérodiens? Le levain des Hérodiens représentait le mélange de la politique et la religion. C'était ça, les Hérodiens, c'était des Juifs qui étaient attachés à Hérode. Et on voit que Jésus va leur parler à eux aussi dans Matthieu chapitre 22, verset 16. Ils envoyèrent auprès de lui leurs disciples avec les Hérodiens qui dirent « Maître, nous savons que tu es vrai et que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité, sans t'inquiéter de personne car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes. Dis-nous donc ce qu'il t'en semble. Est-il permis ou non de payer le tribut à César ?» C'était là leur question. Hein. On voit qu'il y avait ce mélange de foi, de politique et de religion. Dans leur vie, c'était leur situation. Et à ce moment-là, donc, nous connaissons la parole du Seigneur qui va leur dire « Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Il est important de nous garder. C'était la parole du Seigneur. C'est toujours sa parole pour nous aujourd'hui. On le trouve, ce passage dans Marc 8, de nous garder avec soin du levain des Hérodiens. Parce qu'encore aujourd'hui, il y a ce piège de tomber dans de vaines discussions par rapport à la religion. Et Dieu nous enseigne ce soir, Dieu nous parle afin de ne pas nous tromper de combat, afin de ne pas perdre de temps. Parce que il y a des positions dont il nous faut nous garder, je pense. Le Seigneur nous appelle à prendre position pour lui, pour sa parole, mais il y a des positions dont il nous faut nous savoir nous garder. Le Seigneur ne nous appelle pas à faire de la politique, je crois, mais nous appelle à garder avec soin du levain. Marcher dans l'obéissance et chercher sa face. C'est ce à quoi Dieu nous appelle. Et il est important de savoir, avec bon sens, avec sagesse, nous garder ici-bas de certaines positions envers des politiciens. Parce que ce soir, si je me mettais là à parler de politique, ben je crois que on serait pas d'accord et que il y aurait plusieurs divisions au milieu de nous. Parce que c'est ce que ça amène, hein, la politique. Et on voit malheureusement beaucoup de chrétiens qui, par manque de sagesse, affichent leur position, leur choix politique, mais qui finalement ne font pas l'œuvre de Dieu, ne sont pas des discussions qui favorisent l'œuvre de Dieu, mais plutôt qui la freinent. Comprenez ce que je veux dire. Ce soir, je ne dis pas qu'il ne faut pas parler de politique. Je ne dis pas qu'il ne faut pas voter parce que c'est un devoir, un droit. Et le Seigneur nous appelle à être soumis aux autorités, à honorer le président, à honorer le roi. C'est écrit. Et c'est ce qu'on a fait dans ce temps de prière juste avant, à prier pour les autorités. C'est là le rôle de chaque chrétien, le rôle de chaque croyant. Mais je vous le dis parce que je l'ai sur le cœur de ne pas tomber dans de vaines discussions. Parce qu'il y a un programme qui s'accomplit, un programme qui a été élu, qui a été choisi, hein, un programme qui est écrit de toute éternité, hein, et un programme contre lequel on ne peut pas aller. Et il y a des choses contre lesquelles on ne peut pas aller, qui se passent dans ce monde, qui se passent dans notre pays, qui prennent place pour amener ce que la parole de Dieu nous dit, l'Antichrist, le retour du Seigneur Jésus-Christ. Ces choses-là nous préviennent en réalité. Tout ce que nous voyons, ce soir, gardons-nous avec soin aussi du levain des pharisiens. Sachant, oui, rendre, comme le disait le Seigneur, à César ce qui est à César. Restons dans l'obéissance, soumis aux autorités, que ce soit dans tous les domaines. Parce que ça, c'est le devoir biblique de chaque chrétien. Respecter l'autorité, les lois qu'ils sont dans notre pays, sauf celles qui iraient à l'encontre de la parole de Dieu, mais de respecter l'autorité. De travailler, de savoir travailler honnêtement, de rejeter tout travail malhonnête, savoir respecter, je donne des attitudes concrètes, mais c'est ça, respecter les autorités, être dans le respect des limitations de vitesse. Parfois, il y a des choses légères, ça peut nous paraître des détails, mais c'est important. Et c'est parfois ce qui amène vraiment un arrêt spirituel dans la vie de certains chrétiens parce qu'ils n'ont pas su se garder de ce qui n'était mauvais, du levain des pharisiens, comme on l'a vu, du levain des sadducéens, du levain des hérodiens. Ce soir, gardons-nous. Un chrétien doit savoir se garder. Le Seigneur Jésus-Christ disait la même chose dans un autre passage, dans Luc chapitre 12, verset 1, verset 1er. Gardez, avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens, qui est l'hypocrisie. Avant tout, gardez-vous, et je regardais ce verset dans d'autres versions, il est dit, gardez-vous sur toute chose du levain. Gardez-vous sur toute chose du levain, que ce soit dans tous les domaines de notre vie, nous puissions nous garder du levain, de tout ce qui est mauvais, de tout ce qui est mal, de tout ce qui n'est pas de Dieu. Comme ce verset qui nous dit, pour terminer, je conclurai avec ce dernier verset qui résume toute cette pensée dans 1 Jean chapitre 5, verset 18. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pèche pas, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Je le redis, un chrétien doit savoir se garder. Savoir se garder du mal, se garder de tout ce qui n'est pas de Dieu, se garder de ce formalisme religieux, se garder de ce scepticisme, des sadducéens, de tout doute, C'est un choix. C'est un choix. On a le choix de douter ou le choix de eh bien avoir foi. C'est un choix dans nos vies. Vous savez, peut-être que si vous avez des difficultés, peut-être que pour vous, eh bien, vous avez à vos yeux une foi fébrile, peut-être fragile. Vous savez d'où vient la foi ? La parole de Dieu nous le dit, de ce qu'on entend. De la parole de Dieu, de la parole de Christ. Alors, eh bien, nourrissons-nous de la parole de Dieu, des paroles de foi. Que nos cœurs soient imprégnés de la parole de Dieu. Gardons-nous en tout cas de désobéir à quoi que ce soit qui irait à l'encontre de la parole de Dieu. Gardons-nous de tout ce qui n'est pas de Dieu. Amen. Pour eh bien, ne pas être touché par le malin, et pour rester dans les voies de Dieu, pour rester eh bien, dans ce chemin de grâce, de bénédiction, d'abondance, de vie, de paix, de repos. Et vraiment, c'est pour cela que le Seigneur nous appelle à nous garder. Oui, il est celui qui nous garde, mais il y a notre responsabilité aussi de rester à l'abri, de rester gardé, protégé, en se gardant soi-même. Amen. Seigneur notre Dieu, nous voulons te bénir de tout notre cœur, parce qu'encore ce soir, tu parles à nos cœurs. Et tu nous enseignes et tu nous montres ta volonté, ce qui t'est bon, agréable, parfait. Seigneur, je te prie de venir encore nous donner de réaliser, Seigneur, ce que nous avons entendu par ton esprit, que ces choses, Seigneur, restent gravées, inscrites dans nos cœurs et que nous ne ressortions pas de ce lieu en oubliant, mais que nous puissions garder précieusement tes paroles en choisissant de les mettre en pratique. Tu connais, Seigneur, toutes choses. Seigneur, dans nos vies, dans nos cœurs, dans notre Église, dans ce monde, Seigneur, et tu es sur ton trône, tu règnes. Seigneur, je te prie de faire grâce à chacun de mes frères et sœurs, ceux qui peuvent être dans la difficulté, dans le doute, ceux qui peuvent être dans cette apparence de religiosité. Je te prie vraiment de, Seigneur, éclairer les cœurs ce soir et, Seigneur, de restaurer, de délivrer, de guérir, d'intervenir, de faire grâce. Seigneur, nous voulons, Seigneur, te demander, oui, ta grâce, Seigneur, sur chacun de nous, sur notre Église, sur notre pays. Ce que nous voulons, Seigneur, c'est nous garder de tout jugement, de toute mauvaise parole, nous garder de tout ce qui n'est pas de toi. Parce que tu nous enseignes dans ta parole. Je te prie, Seigneur, vraiment, afin que ce soit vraiment la conduite de nos vies. Et je te prie encore, Seigneur, vraiment, afin que, oui, ton Église puisse, tout en se gardant, Seigneur, elle-même, aller plus loin sur ce terrain de la foi, en se saisissant de tout ce que tu mets là à notre disposition, afin, oui, que ta gloire se manifeste au milieu de nous. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur. Amen.